Bonjour mes frères et sœurs, quelle joie d'être ensemble devant la parole de Dieu qui est notre nourriture, qui est la lumière de notre chemin. Quelle bénédiction être appelés des enfants de Dieu. Je vous pose une question. Est-ce que jamais quelqu'un vous a dit, ah tu sais toi, tu crois en vain? Ce truc-là de Bible, de Dieu, tu crois en vain. Est-ce que quelqu'un t'a jamais dit ça? Ou est-ce que quelqu'un t'a jamais raconté qu'on lui a dit ça? Bon, voyons une chose que j'aimerais bien partager dans la parole de Dieu aujourd'hui. Je me permets de partager une série de slides pour nous aider à bien fixer ce que le Seigneur a pour nous aujourd'hui. Voilà. Il y a déjà une partie de la parole de Dieu qui dit, je vous rappelle l'évangile. Et c'est à propos de ça que j'aimerais bien réfléchir avec vous aujourd'hui. Ça se trouve en 1 Corinthiens, chapitre 15, dans le morceau de versets 1 et 2. Déjà, j'aimerais bien faire une petite voyage avec vous par les Écritures pour qu'on puisse arriver jusque à la lettre de Paul aux Corinthiens. Voilà. Déjà, vous savez, la parole de Dieu n'a pas été écrite dans notre langue, dans le français. Elle a été écrite en trois langues. L'Ancien Testament, la majorité, 97% en hébreu. Alors, probablement, Moïse a écrit comme ça, comme vous le voyez maintenant. Après, quand le peuple de Dieu était des esclaves parmi en Babylone, ils ont appris leur alphabet et ils ont commencé à écrire comme ça. Et c'est comme ça qu'ils écrivent même aujourd'hui. C'est pour ça qu'on prend une Bible en hébreu aujourd'hui, elle est écrite comme ça. Aussi un petit peu de la parole de Dieu dans l'Ancien Testament a été écrit en araméen. C'est exactement la langue qu'on parlait en Babylone, où ils ont pris le nouveau alphabet. Il y a quelque chose de l'Ancien Testament en araméen. Et finalement, le Nouveau Testament a été écrit en grec. Non parce que c'était maintenant la langue du peuple de Dieu, mais parce que c'était la langue général pour que le peuple puisse se communiquer à ce temps-là, un petit peu, disons, comme l'anglais aujourd'hui. Et voilà, le peuple de Dieu, des Hébreux qui parlaient l'hébreu, qui en fait, au temps du Seigneur Jésus, parlait l'araméen qu'ils avaient appris en Babylone, mais ils se servent à cet instant du grec pour mieux communiquer. Alors, ils sortent de leur confort, disons, d'utiliser leur propre langue pour faire l'effort d'utiliser une autre langue, mais de façon que la parole de Dieu touche la plus grande quantité de cœurs possible. Et ça déjà me pose une question. Qu'est-ce que moi, Eliel, qu'est-ce que je fais pour que la parole de Dieu arrive le plus loin possible, il soit compris et soit apprécié pour la plus quantité de gens possible. Voilà. C'était comme ça auparavant. Modernement, l'alphabet a été changé et il est comme ça. C'est pour ça qu'on prend une Bible en grec aujourd'hui, elle est écrite comme ça. Et grâce au Seigneur, s'il y a encore des tas de langues qui n'ont pas même inversé de la parole de Dieu dans leur langue, nous l'avons entièrement en français. Et il faut être reconnaissant au Seigneur pour ça, cette préciosité. Voilà l'histoire de l'humanité pour que nous puissions savoir où nous sommes et où se trouve ce que nous allons réfléchir aujourd'hui. Déjà, Dieu a créé le premier être humain en hébreu, c'est Adam. Ça veut dire que le nom de premier être humain était être humain, traduit en français Adam. Et la première opportunité que l'être humain a eue, il a choisi de suivre ses propres chemins loin de Dieu. le péché est entré dans le monde. Voilà, jusqu'à ce qu'on arrive à Noé, dont la situation est terrible, et Dieu achève tout avec l'inondation, et il recommence par Noé. Mais déjà, rapidement, le péché revient. Et petit à petit, dans l'histoire de l'humanité, Dieu nous montre que même si Dieu nous donne de nouvelles occasions pour obéir sa parole, pour nous redresser à son chemin, l'être humain, tout seul, il n'arrive pas à le faire. Alors Dieu montre à travers l'histoire déjà que nous avons besoin de l'intervention de Dieu avec nous pour que nous suivions ses chemins. Dieu après appelle Abraham qui était dans l'idolâtrie, dans un monde, une société de péché, et Abraham dit oui au Seigneur, et Dieu commence alors un peuple à travers d'Abraham pour se faire représenter, disons comme ça, parmi le peuple du monde, pour montrer au peuple du monde comment c'est une relation avec Dieu. Le peuple de Dieu peu à peu grandit et il est divisé en 12 tribus. Il n'y a qu'un royaume qui est après David et Salomon, pardon, encore avant ça. Dieu qui est un Dieu d'ordre, il met des juges pour établir l'ordre et maintenir l'ordre avec son peuple. Après ça, dommage, malheur. Son peuple qui regarde le peuple qui l'entoure et voit que les autres peuples ont des rois pour leur gouverner, au lieu de dire « Ah, regarde, nous n'avons pas besoin des rois, nous avons Dieu lui-même, il règne sur nous. » Non, ils se laissent influencer et au contraire, ils disent « Mais pourquoi est-ce que tous les peuples ont des rois et nous, non ?» Et c'est dommage, c'est parfois aujourd'hui, nous avons la même attitude. Au lieu de reconnaître la bénédiction qui nous entoure parce que nous sommes le peuple de Dieu, c'est dommage si parfois nous regardons le monde et nous aimerions plutôt être comme le monde. Mais voilà, ils veulent de roi, Dieu leur donne de roi. Après Salomon, le royaume est divisé, le royaume du nord avec la plus grande quantité de tribus s'appelle Israël. Le royaume du sud, du midi, avec peu de tribus s'appelle Juda. Et le deux royaumes avec ses rois, avec leur vie de chaque jour, ils pêchent, ils s'éloignent de Dieu. Et Dieu donne de l'avertissement prophétique aux deux royaumes, le royaume du nord, Israël, qui malheureusement ne suit pas le conseil de Dieu. Et alors, ils souffrent le châtissement. Soit ils sont pris par la Syrie comme des esclaves. Et le royaume du sud, de la même façon, Juda, pris par la Babylone, le Chaldéen, comme des esclaves. Après ça, on ne parle plus du royaume du nord, Israël, mais on a les yeux sur Juda, qui est en Babylone. Et c'est pour ça que les livres qui vont parler de Juda à partir de ce moment, parfois ils appellent Juda, Juda, et parfois ils utilisent le nom Israël, pourvu que maintenant on ne parle plus du nom du royaume du nord, on se sort des deux noms pour parler du royaume du sud. Ils sont en Babylone, Dieu envoie aussi des prophètes à leur parler en Babylone. À ce moment-là, la Perse prend la Babylone, c'est pour ça que déjà le livre d'Esther, elle va auprès du roi perse. Ils sont toujours en Babylone, mais maintenant la Babylone est gouverné, dominé par la Perse. Dieu le permet de partir et il y a alors le post-exil, il y a des prophètes qui viennent de nouveau parler à son peuple. Après 400 ans de silence prophétique, et finalement vient Jean le Baptiste qui va parler de quelqu'un dont le nom et le titre veut dire « salut, loin ». Exactement. Jésus le Christ, ou bien le Messie. Et c'est pour ça que maintenant, nous changeons ici la couleur. Le Nouveau Testament qui est instauré par le Saint, puissant et pur de notre Seigneur Jésus Christ. Voilà de nouveau, Dieu prend son peuple, qui maintenant est l'Église, pour se faire représenter ici sur la terre parmi les autres peuples. Voyons notre responsabilité, notre privilège, notre honneur, mais aussi notre responsabilité. Oui, c'est moi et c'est toi qui représentons Dieu ici et sa parole et la bonne relation qu'il y a, qu'il peut avoir entre Dieu et l'être humain. Dans un moment donné, et voilà où nous sommes maintenant dans l'histoire de l'humanité. Comme la Bible est le livre de toute l'histoire, de toute la géographie, c'est le commencement de tout, elle est un merveilleux livre d'histoire parce qu'elle raconte ce qui s'est passé et ce qui va encore se passer. Dans un moment donné, Dieu va venir prendre son Église et nous serons au ciel pour le mariage, le noce entre le Seigneur Jésus et son Église. Et là-bas, nous serons probablement pendant 7 ans, ce qui n'est pas étrange pour un juif parce que le mariage juif prenait 7 jours. Et pendant ces 7 ans-là, il y aura le moment le plus terrible de toute l'humanité, la parole de Dieu nous dit, qui c'est la tribulation. À la fin de la tribulation, le Seigneur Jésus vient pour détruire son ennemi. Ses saints viendront avec lui. Il va instaurer son royaume de 1000 ans sur la terre et il y aura de la prospérité pour tout le monde. Et c'est lui-même, le Seigneur Jésus, qui va gouverner la terre. Et à la fin de ce royaume, voilà, dans le trône blanc du Seigneur, chaque être humain qui n'a pas cru à Dieu sera condamné, et voilà les nouveaux cieux et la nouvelle terre, l'éternité parfaite, merveilleuse avec Dieu, et voilà l'histoire de l'être humain dans cette terre et dans la nouvelle terre. On parle aussi des dispensations, ça veut dire le commencement du tout, quand la relation de Dieu avec les êtres humains était une relation du côté de l'être humain d'innocence, mais après qu'il a pris le fruit, la connaissance du bien et du mal, c'était le moment de la conscience, après le gouvernement humain, après la dispensation de la promesse de Dieu, après de la loi donnée par Moïse et ainsi de suite, après le moment de la grâce, c'est le moment que nous vivons, et après le moment du royaume millénaire de Dieu. C'est la dispensation de la vie de l'être humain dans cette terre avant qu'on commence l'éternité. Il y a un ordre chronologique des livres de l'Ancien Testament. Par exemple, quand Moïse a écrit pour le peuple qui partait de l'esclavage en Égypte et devrait connaître ce Dieu, il commence à raconter l'histoire de l'être humain avec Dieu par la création, l'exode, etc. Voyons que, par exemple, le livre de Job est du même temps du livre de la Genèse. Et alors, nous avons la continuation, nous avons les tribus du nord et du sud, le prophète qui ont prêché à chaque tribu, à chaque royaume, les prophètes qui ont prêché pour les étrangers, et finalement, voilà comme ça. La même chose se passe pour le Nouveau Testament. Nous avons des histoires, la histoire racontée à travers les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ceux qui étudient profondément la parole de Dieu disent que Jean était le dernier à être écrit et qu'il a écrit premièrement le livre d'Apocalypse, après ses 3 lettres et finalement l'évangile. Et que probablement tout a commencé avec l'évangile de Marc, avec les écrits, les écritures que Pierre avait laissées. Et chaque évangile a été écrit pour une audience particulière. C'est pour ça que, par exemple, Matthieu, il parle aux Hébreux. C'est pour ça que, normalement, il dit, comme disent les Écritures, comment a dit le prophète, etc., pour montrer aux Hébreux que le Seigneur Jésus, il était ce qui avait été prévu par les Écritures. Et ainsi de suite, il y a les lettres qui ont été écrites dans des moments donnés, pour des raisons données pour les situations des Églises, mais qui, bien sûr, nous bénissent toujours aujourd'hui. Et finalement, parmi ces lettres, la lettre de Paul aux Corinthiens. Si on lit Actes chapitre 18, on va voir le commencement de cette église, l'église à Corinthe. Et si on peut résumer le regard de la lettre aux Corinthiens, on dirait que c'est apprendre à regarder tous les domaines de la vie à travers le prisme de l'Évangile. L'Évangile n'est pas une religion. L'Évangile, c'est une façon de vie. C'est une nouveauté de vie qui touche tout le domaine de notre vie. L'Évangile n'est pas un côté de nos affaires, un côté de notre vie. Il est notre vie qui touche tout le domaine de notre vie. Et la lettre aux Corinthiens, la première, elle parle de ça. Corinthe étant une ville au bord de la mer, avec beaucoup de commerces, de gens qui arrivent, etc., ça donne déjà comme un méchant, un mauvais cadeau, une mauvaise influence mondaine. Et alors la première lettre aux Corinthiens, elle parle beaucoup du péché, d'une culture contraire à Dieu qui commence à s'infiltrer dans l'Église et parle de la vieille nature, pleine de péché. Si on fait la division des chapitres de 1 Corinthiens, nous avons le chapitre 1 à 4, il parle des divisions qu'il y avait parmi le peuple de Dieu. De 5 à 7, il parle du sexe, de la relation sexuelle. De 8 à 10, il parle de la nourriture. Et de 11 à 14, il parle à propos de des réunions de l'Église. Le 15, il parle de la résurrection de notre Seigneur. Et au 16e chapitre, il nous donne la conclusion. Une fois encore, nous voyons que la lettre, elle touche les variés domaines de notre vie quotidienne. Voilà, il commence alors en parlant dans le chapitre 1 de l'unité, de l'importance de l'unité du peuple de Dieu, qui fait la promotion du message de la croix et qui se fait passer par la puissance de Dieu à travers notre vocation. Il nous a appelés, mais c'est à travers sa puissance, dans notre union, que la promotion du message de la croix arrive. Il continue dans le chapitre 2, il parle de nouveau de cette puissance de Dieu, de cette sagesse de Dieu, et il renforce que nous, Dieu nous a appelés à être ses collaborateurs pour la promotion de ce message, et que pour la promotion de ce message, c'est toujours la puissance et la sagesse de Dieu qui vaut, et jamais la sagesse humaine qui est inutile. Nous sommes des administrateurs du Christ, nous voyons dans le chapitre 4. Le chapitre 5 parle de la gravité du manque de regret. Le 6 parle de la dignité, de l'humanité, la pureté. Le 7 parle des célibataires, des mariés, veufs. Le 8, de l'amour pour les faibles. Le 9 parle des droits et de l'abandonnement de ses droits, c'est-à-dire celui qui vit de l'Évangile et celui qui ne vit pas aussi. Et il donne la valeur de tout pour l'Évangile. Chapitre 10, il parle de la position respectueuse dans la lutte de cette vie. Il faut prendre cette position. Il dit que Dieu est avec nous. Il mentionne l'idolâtrie, le problème de l'idolâtrie. Il parle de la conscience de l'incroyant et la gloire de Dieu. Et comme il même dit, afin qu'il soit sauvé. Chapitre 11 parle de la bienséance dans le culte, parle de la Sainte Cène. Du chapitre 12 jusqu'au 14, il parle des dons spirituels. Le chapitre 15, c'est celui-là qui nous touche aujourd'hui, il parle de la résurrection. Il donne l'argumentation, il donne l'application. Et finalement, dans le chapitre 16, il donne des questions, il touche des questions pratiques et personnelles. Voilà. Je vous ai posé une question dans le commencement de notre moment ici. Croire en vain. Est-ce que quelqu'un t'a jamais dit ça? Mais écoute, tout ce truc-là, tu crois en vain. Et pourquoi est-ce que je pose cette question? 1 Corinthiens 15, 1 et 2. Je me permets de le mettre déjà ici sur l'écran pour gagner du temps aujourd'hui pour nous. pour nous. Il dit, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Prions, Seigneur, notre Dieu, Dieu d'amour, Dieu de toute sagesse, majestueux, merci de nous avoir aimés et nous avoir sauvés. Merci de la sécurité pleine que nous avons dans le sang du Seigneur Jésus. Et merci de ta parole précieuse qui rayonne sur notre chemin. Merci, Seigneur. S'il te plaît, bénis-nous à travers la réflexion de ta parole. Nous avons besoin de ta bénédiction. Nous ne méritons pas du tout ta bénédiction, mais voilà. Qu'est-ce que sera de nous sans ta bénédiction? Merci, Seigneur. Gloire à ton nom, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je répète la lecture. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Mais qu'est-ce que c'est ça alors? Déjà, il leur parle comme à des frères, ce qu'ils sont vraiment. Même si 1 Corinthiens parle d'une église fortement touchée par les péchés, mais ce sont toujours des frères. Une fois enfants de Dieu, enfants de Dieu pour toujours. Quel privilège être appelé un enfant de Dieu. Est-ce que nous sommes d'accord vraiment avec la parole de Dieu? Ou est-ce que parfois notre amitié, nos préférences sont plutôt hors de l'Église que dans l'Église? Oui, l'Église, elle est formée de gens imparfaits, comme moi, comme toi, mais grâce à Dieu, des gens qui ont la même foi et des gens précieux qui prient pour moi, qui prient pour toi, qui même dans ses limites nous aiment dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Comme 1 Pierre 1,12 dit, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses. Ça parle des prophètes qui parlaient déjà de ce moment de l'Église, de la grâce. Qui vous ont annoncé maintenant ce que vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Déjà, ce moment que nous vivons maintenant de la grâce, c'était quelque chose que les prophètes d'auparavant envisageaient, et que même les anges maintenant, ils font attention. C'est le moment précieux, unique de la grâce de Dieu, le moment de l'Église de Dieu, le moment où nous sommes des frères et des sœurs. Il faut que nous soyons reconnaissants de cette préciosité à chaque instant. Et il dit, je vous rappelle. Mais il y a quelque chose d'intéressant, parce que le verbe qui est utilisé à ce moment-là, pour ceux qui lisent le grec, le verbe gnorizo, veut dire vraiment faire savoir. Et j'ai remarqué, si j'utilise ici la version Lise seconde, j'ai remarqué que la version Martin, il me semble, et Darby aussi, elles ne disent pas « je vous rappelle », mais « je vous fais savoir ». Mais pourquoi « fait savoir » l'Évangile à des chrétiens? Quel mystère il y a là? Et peut-être c'est pour ça que Lise seconde a préféré, la version Lise seconde a préféré avoir « je vous rappelle ». Mais vraiment le verbe, il dit « faire savoir ». Qu'est-ce qu'il y a que peut-être ce chrétien-là, et même peut-être nous aujourd'hui, qu'ont-ils ignoré? Et que peut-être, qu'est-ce que j'ignore aujourd'hui à propos de l'Évangile que j'ai enlacé un jour? De toute façon, la Bible nous rappelle toujours qu'il faut connaître de plus en plus les Saintes Écritures et connaître de plus en plus Dieu. Alors déjà, quand on dit je vous rappelle, frère, ou plutôt je vous fais savoir, frère, l'évangile, nous savons que la parole, le mot évangile, il a été coupé du grec et collé en français. Evangelion veut dire bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? Bon, n'importe quelle bonne nouvelle en grec se dit Evangelion. Et déjà, c'est vrai que dans la Bible, il y a plusieurs bonnes nouvelles. N'importe quelle bonne nouvelle que quelqu'un venait donner, il dirait en grec Evangelion. Et déjà, la parole de Dieu même, elle utilise ce mot pour parler des situations différentes, des bonnes nouvelles dans des situations différentes, différemment de ce que nous sommes déjà plutôt habitués à penser. Ah bon, bonne nouvelle, oui, l'évangile, je suis pardonné et je ne suis plus condamné. Oui, ce sont de merveilles nouvelles. Mais le mot, l'expression bonne nouvelle est utilisée dans la parole de Dieu dans différentes situations. Et alors toujours quand moi et toi, quand nous lirons bonne nouvelle à évangile dans la parole de Dieu, il faut se poser la question, de quelle bonne nouvelle est-ce qu'il parle maintenant? Par exemple, dans le temps du Seigneur Jésus, on prêchait l'évangile du royaume qui sera prêché de nouveau pendant le 7 ans quand nous serons aux cieux avec Dieu et la terre sera dans les 7 ans de tourmente. Mais maintenant, nous prêchons l'évangile de la grâce de Dieu. Alors, Evangelion, les bonnes nouvelles. Et il dit, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé. Alors, ou plutôt comme il dit en grec, hein, je vous fais savoir, frère, l'évangile que je vous ai annoncé. Alors, quel évangile est-ce qu'il leur a annoncé? Ici, c'est la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Et c'est intéressant parce que croire, comme il est utilisé dans le Nouveau Testament, il donne l'idée non seulement de croire que quelque chose est vrai, non seulement en croyant à ça, à mettre ça comme le fondament pour sa vie, encore à croire suivant le Seigneur Jésus. Les expressions utilisées, les prépositions utilisées avec le verbe pisteuo, à croire en grec, ils disent, tu ne crois seulement que c'est vrai et tu ne crois seulement pour mettre ta confiance dessus. Mais tu mets ta vie sur ça, appuyé sur ça, et tu suis le Seigneur Jésus parce que tu crois. Ça, c'est le fondement de la croyance dans la parole de Dieu. Et déjà, le mot salut, il est utilisé de plusieurs façons dans les Écritures, pas seulement pour le salut de notre âme. Alors, toujours quand nous lisons de salut, d'être sauvé dans la parole de Dieu, il faut se poser la question, salut de quoi? Être sauvé, être délivré de quoi? Parfois, elle parle de guérison, comme par exemple la femme qui est venue auprès du Seigneur Jésus, elle était malade et le Seigneur Jésus dit, vas-y, femme, ta foi t'a sauvée. Ça veut dire la guérie. Parfois, c'est de la délivrance, comme par exemple quand le Seigneur Jésus était sur la croix, il dit, voilà, sauve-toi, tu n'as pas sauvé les autres, sauve-toi. Ça veut dire délivre-toi de l'ennemi. Il parle, le salut dans la Bible parle de plusieurs types de délivrance, comme par exemple le psalmiste qui loue son Dieu, le Dieu de son salut. Oui, parce qu'il est allé à la guerre et il est revenu en vie. Il a été délivré, il a été sauvé. Et en Christ, nous avons la bonne nouvelle du salut pour tous ceux qui croient, le salut de son nom, de son âme, le pardon de péché. Nous avons la justification, ça veut dire j'ai cru au Seigneur Jésus pour mon salut et j'ai été sauvé, délivré de la condamnation que je méritais. Mais dans ce même salut que le Seigneur Jésus, merci Seigneur, a conquis sur la croix pour nous, il y a la sanctification que la Bible appelle salut aussi. C'est chaque jour que je me permets d'être sauvé, d'être délivré de l'influence du péché sur ma vie. Et la parole de Dieu appelle ça salut aussi. Et le Seigneur Jésus a payé pour ça aussi. Et il y a même la glorification. la partie du salut que nous allons encore expérimenter. C'est le moment quand finalement nous serons délivrés de la vieille nature et de la présence du péché pour toute l'éternité. Tout ça, la justification que nous avons déjà eue et pour toujours, la sanctification que se passe chaque jour dans notre vie si nous permettons à Dieu, et la glorification, tout ça fait partie du salut que le Seigneur Jésus a conquis pour nous sur la croix. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu. Que vous avez reçu. Ils ont reçu l'évangile. Ils ont cru au sacrifice du Seigneur Jésus et ont été sauvés. Ils ont été justifiés. Ils ont été déclarés par Dieu des justes. Pourquoi déclarer? Parce qu'à ce moment-là, nous ne sommes pas encore vraiment de justes. Un juste, c'est quelqu'un qui ne pêche pas du tout, qui est parfait. Ce moment arrivera. Mais à ce moment, en Christ Jésus, nous sommes déjà déclarés par le Père des justes. Nous avons été justifiés. Voilà, le Corinthien, même au milieu de tout le péché où il se trouvait, ils étaient déjà déclarés comme des justes par Dieu. Ils avaient reçu l'évangile. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Dans lequel vous avez persévéré. Et il y a même après ça, je profite déjà en « et ». Et pour dire que notre salut ne s'arrête pas à la conversion. Notre salut ne consiste pas seulement de notre justification. Il n'y a plus dans ce salut. Il faut faire attention à ça. Dans lequel vous avez persévéré. On commence croyant pour notre salut, mais on continue dans la persévérance pour la sanctification. Il dit « dans lequel », la continuité de cet évangile dans la vie du chrétien. Ils ont cru, mais dans lequel ils continuent, ils persévèrent. Vous avez persévéré. Ça parle de leur sanctification. Comme par exemple Matthieu 25, 21 dit « son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Dieu, il valorise la sanctification de telle façon qu'il va même bénir un corps, en plus de la justification, il va bénir chaque chrétien qui se permet d'être sanctifié, d'être fidèle avec l'aide de Dieu dans ce moment que nous sommes ici. Quand nous serons devant le trône du Seigneur Jésus, en arrivant au ciel, nous recevrons d'après tout le monde sauvé, bien sûr, pour toujours, mais nous recevrons d'après notre fidélité. C'est Dieu déjà qui nous encourage à être fidèles. Il y a quelque chose pour nous à cause de notre sanctification. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et voilà, la sanctification. C'est déjà Jacques, pardon, là-bas vous lisez Thiago, c'est plutôt en portugais, désolé, Jacques 2, 14 et 17 qui dit, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ?» La foi peut-elle le sauver? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais ça donne l'impression que ces versets disent que si on croit au Seigneur Jésus, mais on ne fait pas des choses, on n'est pas sauvé. Ah ah, c'est pour ça que c'est important. Chaque fois que la Bible parle du salut, de la foi, d'être sauvé, etc., c'est toujours important, quand la Bible parle de salut et de sauver, poser la question, quel salut? Être sauvé, être délivré de quoi? Parce que par exemple, la lettre de Jacques, elle parle de la sanctification. Et quand elle parle du salut et d'être sauvé, elle parle plutôt majoritairement de la sanctification. Et pour ça, il dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Ma foi au Seigneur Jésus pour être sauvé de la condamnation éternelle, ok, excellent. Mais maintenant, vivre cette foi, si je dis que je vis cette foi, mais ça ne produit rien dans ma vie, les œuvres, la suite ne vient pas. Qu'est-ce que sa foi a produit dans ma vie de chaque jour? Quel type de sanctification est-ce qu'elle produit? Il dit, la foi peut-elle le sauver? Est-ce qu'une foi comme celle-là, que ne te produit rien auprès de Dieu chaque jour, est-ce que va te délivrer de l'influence du péché? Est-ce qu'elle va te sanctifier? Est-ce qu'elle va te sauver de l'influence du péché, qui est appelée la sanctification? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Il faut que notre foi produise aussi la sanctification dans notre vie. C'est de ça qu'il parle maintenant. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Par lequel, le mot qu'il utilise ici, que lui seconde a traduit pour « vous êtes sauvé », le mot « sotzeste » veut dire vraiment « vous êtes en train d'être sauvé ». Mais attends, je suis en train d'être sauvé? Je croyais que j'avais déjà été sauvé par l'Évangile en croyant au Seigneur Jésus. Oui, on a été justifié, on a été sauvé, délivré de la condamnation éternelle. Mais maintenant, c'est pour ça qu'il dit, nous avons été sauvés et nous sommes aussi en train d'être sauvés. Maintenant, être sauvé chaque jour de l'influence du péché, c'est la sanctification. Et c'est ça que vraiment le verbe veut dire, par lequel vous êtes en train d'être sauvés. Comme nous avons en Colossiens 3 et 3, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu, par lequel vous êtes sauvés. Dans l'original en grec, il y a un mot qui nous échappe ici en français, il dit par lequel, et alors il y a un mot en grec, kai, que veut dire aussi, par lequel aussi vous êtes en train d'être sauvés. Vous avez été sauvés, justification, mais aussi il y a plus que le Seigneur Jésus, pour lequel le Seigneur Jésus a payé sur la croix. Il y a aussi la continuation de ce salut qui s'appelle la sanctification. Ce sont le fruit dans notre vie, par lequel aussi vous êtes en train d'être sauvés. Comme nous avons Romains 6, 4, nous avons donc été enseveli avec lui par le baptême en sa mort, voilà la justification, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Voilà un verset, Romains 6, 4, qui parle de la justification et de la sanctification. Tout ça, c'est notre salut. Alors, la justification et la sanctification. Et nous profitons de l'occasion pour nous souvenir, comme 1 Pierre 1, 5-10, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Salut qui va encore être révélé, mais et le salut qu'on m'a dit que j'ai reçu quand j'ai cru au Seigneur Jésus, oui, mais voilà, c'est le commencement de ton salut. La certitude de la vie éternelle avec Dieu, maintenant le salut, la délivrance chaque jour de l'influence du péché, mais il y a un côté du salut qui va encore se révéler, que c'est la glorification, quand nous serons sauvés, délivrés de la présence du péché, de notre vieille nature. C'est la Bible qui le dit déjà. Et il dit, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Toujours quand on lit dans la Bible, si, Je peux être deux choses. Ce si veut dire pourvu que, comme par exemple, est-ce que tu vas voir Jacques demain? Ah oui, je serai avec lui demain. Alors, si tu vas le voir, s'il te plaît, donne-lui cette clé. Ça veut dire pourvu que tu vas le voir, donne-lui cette clé. Il y a parfois comme ça, et il y a parfois le si qui veut dire bon, si jamais ça se passera, dans la condition que je ne sais pas si ça se passera ou non. Il faut toujours qu'on lit dans la parole de Dieu. Si, on arrête tout et on voit. Est-ce que dans le contexte, ce « si » veut dire « pourvu que » ou est-ce que ça veut dire « bon, si jamais c'est le cas ». Voyons Romains 8, 17 qui dit « Or, si nous sommes enfants, mais attends, il écrit aux chrétiens romains, et alors quand il dit « si nous sommes enfants », il veut dire « pourvu que nous sommes des enfants », parce que je parle des enfants de Dieu, de chrétiens, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, et maintenant il donne une conduction aux enfants de Dieu, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés, avec lui. Se glorifier ici, rapidement, ne parle pas de notre glorification, l'enlèvement de la vieille nature. Il parle de notre venue avec le Seigneur Jésus pour son royaume dans la gloire de Dieu. Il va venir en gloire et nous viendrons aussi, mais en gloire comme lui, bon, ça dépend. Si toutefois, nous souffrons avec lui. Qu'est-ce que c'est ma vie et ta vie maintenant auprès du Seigneur Jésus? C'est déjà 2 Timothée 2 et 12 qui dit « Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. » Ça n'a rien à voir avec le salut, je suis sauvé et sauvé pour toujours. Mais si je renie à Dieu le droit qu'il a sur moi de persévérer dans ma vie, il va me régner aussi le droit de régner avec lui. Sauvé pour toujours. Mais régner avec lui, c'est quelque chose d'autre. Je vous rappelle, frères, l'évangile que vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Autrement, vous auriez cru en vain. Mais qu'est-ce que c'est ça? Matthieu 25, de 26 à 28, nous dit « Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais. » Nous ne serons pas pris par surprise dans le tribunal du Christ. « Ah Seigneur, mais non, non, on connaît, on a la Bible, on a la Bible. Serviteur méchant et paresseux, tu savais. » Et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Dieu nous a confié des choses précieuses. Est-ce que nous faisons des investissements spirituels pour que quand il reviendra, il le reprenne avec de l'intérêt? Et alors il dit, ôtez-lui donc le talent et donnez-lui à celui-là qui a les 10 talents. Notre situation dans l'avenir, bon, le salut est sécurisé. Mais notre situation de gloire avec Dieu, c'est nous qui la préparons maintenant à travers notre fidélité. Romains 8 et 29 dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier né entre plusieurs frères. » C'est bien que nous célébrions notre Dieu à cause de notre salut, notre justification, qui nous a enlevé la condamnation éternelle. Oh, c'est merveilleux! Mais ce n'est que le point, le sommet de tout l'iceberg. Il nous a sauvés pour nous faire semblables, pour nous rendre semblables à son Fils. C'est pour ça que c'est dommage quand le chrétien, après avoir passé la porte d'entrée de toutes les merveilles que Dieu a, d'une relation avec Dieu, dit « Non, non, si je reste là, près de la porte tout seulement, je ne profite de tout ça, ça me va déjà parce que je ne serai pas condamné. » Dieu dit « Mais non, je ne t'ai pas sauvé seulement pour ça, je t'ai sauvé pour te rendre semblable à l'image de mon Fils. Autrement, tu as cru en vain. » Je ne t'ai pas sauvé seulement pour que tu ne subisses pas la condamnation éternelle. Ça, c'est le commencement du salut. C'est merveilleux, j'ai ça. Mais il y a une raison, c'est te rendre plus semblable à l'image de mon Fils. Et voilà 1 Pierre 1, 12-14 qui dit « Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses qui vous ont annoncé maintenant, ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. C'est pourquoi, saignez le rein de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Notre Dieu et Seigneur est gentil, bienveillant, gracieux, compatissant et nous aime extrêmement. Négliger tout cela lui apporte le déshonneur et nous apporte une perte éternelle. Pas une perte de la vie éternelle, mais des choses qui nous sont réservées, qui ont été payées pour nous sur la croix. Alors à lui, toute la gloire et la reconnaissance pour le siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.